Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal du docteur Seward. 1er octobre, 4h du matin. Juste au moment où nous allions sortir, on vint me demander, de la part de Renfield, si je pouvais le voir immédiatement, car il avait à me dire une chose de la plus haute importance. Je répondis qu'étant occupé pendant toute la soirée, j'irai le voir de bonne heure le lendemain matin. « Mais il semble plus impatient que jamais, monsieur, » insista le surveillant. « Je voudrais me tromper, mais j'ai l'impression que si vous n'allez pas le voir tout de suite, il aura une de ses crises les plus violentes. » J'avais confiance dans le jugement de cet homme. Je décidai donc de me rendre auprès de mon malade et demandai à mes compagnons de bien vouloir m'attendre quelques minutes. « Permettez-moi de vous accompagner, mon cher John, » fit Van Helsing. « J'ai pris beaucoup d'intérêt à lire dans votre journal ce que vous dites de son cas, qui n'est pas sans rapport, de temps à autre, avec le cas dont nous nous occupons. Je tiendrai beaucoup à voir ce malade, et précisément quand une crise le menace. « Puis-je venir aussi ?» demanda Lord Godalming. « Et moi ?» fit à son tour Quincy Morris. « Et moi ?» demanda Harker. D'un signe de tête, je répondis oui, et ensemble nous revînmes dans le corridor. En effet, Renfield était fort excité, mais je ne l'avais jamais entendu parler avec tant de bon sens. Je ne l'avais jamais vu montrer tant de calme, assurance dans ses manières. Il faisait preuve d'une étonnante compréhension de son propre cas, ce que je n'avais encore jamais observé chez aucun de mes malades. Et il ne doutait pas que les raisons qu'il avançait ne l'emportassent sur celles que nous pourrions lui opposer. Ce qu'il avait de si urgent à me demander, c'était de le laisser rentrer chez lui. Il prétendait qu'il était entièrement guéri et qu'il ne souffrait plus du moindre trouble mental. « J'en appelle à vos amis, » me dit-il. « Peut-être voudront-ils bien juger de mon cas. À propos, vous ne m'avez pas présenté. » J'étais si interdit que, au moment même, l'idée de présenter à d'autres personnes un fou interné dans notre asile ne me parut pas insolite. En outre, il y avait vraiment quelque chose de digne chez cet homme et l'on voyait qu'il avait eu l'habitude de la vie sociale. Je n'hésitais donc pas à faire les présentations. Monsieur Renfield, Lord Godalming, le professeur Van Helsing, Monsieur Quincy Morris du Texas, Monsieur Jonathan Harker. Il leur serra la main en s'adressant à chacun d'eux tour à tour. Lord Godalming, j'ai eu l'honneur d'aider votre père à Windham et j'apprends à regret qu'il n'est plus, puisque c'est vous à présent qui portez le titre. Il était aimé et honoré de tous ceux qu'il connaissait. J'ai entendu dire que, dans sa jeunesse, il avait inventé un punch au rhum, fort apprécié les soirs du derby. Monsieur Morris, vous avez des raisons d'être fier de votre grand état. Son entrée dans l'Union constitue un précédent qui peut avoir de très importantes conséquences au moment où le pôle et les tropiques voudront s'allier à la bannière étoilée. On mesurera la puissance du traité quand la doctrine de Monroe prendra sa vraie place en tant que fiction politique. Et que dirais-je du plaisir qui m'est offert de rencontrer le professeur Van Helsing? Monsieur, je ne m'excuserai point de négliger tout préambule conventionnel. Quand un homme a révolutionné la thérapeutique par ses découvertes sur l'évolution continuelle du cerveau, les formes banales de politesse sont déplacées, car si on les employait à son égard, on semblerait vouloir le ravaler au rang des autres hommes. Vous tous, messieurs, qui, soit par la nationalité, soit par l'hérédité, ou encore grâce au privilège d'un don naturel, tenez votre place respective dans notre monde en marche, je vous prends à témoin. Je suis aussi sain d'esprit que la majorité au moins des hommes qui jouissent de leur liberté entière. Et j'en suis certain, docteur Seward, vous-même qui êtes très bon, qui avez étudié le droit aussi bien que la médecine, et qui êtes un savant, vous jugerez qu'il est de votre devoir moral d'examiner mon cas avec une attention toute particulière. Ces dernières paroles, il les prononça en prenant un air convaincu et courtois, tout ensemble, qui n'était pas sans charme. Je pense que notre étonnement, à chacun, était grand. Pour ma part, j'étais persuadée, en dépit de ce que je savais des diverses phases de sa maladie, que Renfield avait définitivement recouvré la raison. Et j'eus fort envie de lui dire que sa guérison, en effet, me paraissait évidente, et que j'allais veiller à ce que toutes les formalités fussent remplies le lendemain matin en vue de son départ. Toutefois, me rappelant à nouveau les brusques revirements auxquels il était sujet, je jugeai préférable d'attendre avant de lui faire part d'une si grave décision. Je me contentai donc de lui répondre que son état s'améliorait de jour en jour, que j'aurais avec lui une conversation plus longue le lendemain matin, et que je verrais alors si je pouvais accéder à sa requête. Cela ne parut pas le satisfaire, car il répliqua aussitôt « Mais je crains, docteur, que vous ne me compreniez pas. Ce que je voudrais, c'est m'en aller tout de suite, immédiatement, maintenant, à l'instant même, si cela était possible. Le temps presse, et dans notre convention tacite avec la mort, cet élément, le temps, est essentiel. Je suis sûr qu'il suffit, quand on s'adresse à l'admirable praticien qu'est le docteur Seward, d'exprimer un souhait si simple, encore que d'une telle gravité, pour qu'il soit immédiatement réalisé. » Il m'observait attentivement, et comme je ne paraissais pas disposé à l'approuver, il se tourna vers les autres et les regarda avec le même sérieux. Ne recevant aucune réponse, pas même le moindre signe d'acquiescement, il reprit. « Me serais-je trompé dans mes suppositions ?»« Oui, vous vous êtes trompé, » répondis-je franchement, mais aussi d'une façon assez brusque, je m'en rendis compte. Il y eut un long silence, puis il dit lentement « Dans ce cas, il me faut sans doute vous présenter autrement ma requête. Permettez-moi de demander que l'on me fasse cette concession, que l'on m'accorde cette faveur, ce privilège, appelez cela comme vous voulez. Je vous implore ici, non pour des motifs personnels, mais pour le salut d'autrui. Je ne suis pas libre de vous expliquer toutes les raisons qui m'obligent à vous parler de la sorte. Mais soyez assurés qu'elles sont solides, irréfutables, et qu'il n'y entre pas le moindre intérêt personnel. Elles me sont inspirées par un sens très haut du devoir. Si vous pouviez lire dans mon cœur, monsieur, vous approuveriez entièrement les sentiments qui m'animent. Bien plus, vous me compteriez parmi vos amis les meilleurs et les plus fidèles. » De nouveau, il nous regarda tous attentivement. Je me doutais à présent que le changement survenu soudain dans son comportement mental n'était qu'une autre forme, une autre phase de sa folie, et je me dis qu'il fallait attendre, voir ce qui allait se passer, car je savais par expérience que finalement, comme chez tous les fous, une rechute le trahirait. Van Helsing l'observait avec, semblait-il, un intérêt toujours croissant, et ses sourcils broussailleux se touchaient presque tant son regard restait fixé sur lui. Il demanda à Renfield, d'un ton qui, à vrai dire, ne me surprit pas au moment même, mais seulement quand j'y pensais plus tard, car on eût dit que le professeur s'adressait à un homme aussi sain d'esprit que lui-même. « Ne pouvez-vous pas m'expliquer franchement pourquoi vous désirez partir d'ici ce soir même ? Je suis sûr que si vous ne me cachez rien, à moi, un étranger qui suis sans préjugés et qui ait toujours compris beaucoup de choses, le docteur Seward prendra, à ses propres risques, la responsabilité de vous laisser retourner chez vous. » L'autre hocha tristement la tête, et l'on pouvait lire un poignant regret sur son visage. Le professeur poursuivit. « Allons, monsieur, réfléchissez un moment. Vous prétendez être guéri. Vous cherchez à nous prouver que vous avez complètement recouvré la raison, ce dont nous pouvons encore douter, puisque vous êtes toujours soigné ici. Si vous ne voulez pas nous seconder dans l'effort que nous faisons pour essayer, s'il se peut, de vous satisfaire, comment y parviendrons-nous ? Encore une fois, monsieur, réfléchissez, aidez-nous. Nous souhaiterions, croyez-moi, vous voir libre. » Il répondit en hochant à nouveau la tête. « Docteur Van Helsing, je n'ai plus qu'à me taire. Vos arguments sont irréfutables, et s'ils ne tenaient qu'à moi, je les approuverais sans hésiter. Mais je ne suis pas seul dans cette affaire. Je vous demande seulement d'avoir confiance en moi. Si vous ne me laissez pas sortir d'ici, je décline toute responsabilité dans ce qui pourra arriver. » Je jugeai qu'il était temps de mettre fin à l'entretien qui devenait d'une gravité trop comique, et je me dirigeai vers la porte en disant simplement « Venez, mes amis, nous avons à travailler. Bonsoir, Renfield. » Cependant, comme j'allais ouvrir la porte, le malade changea d'attitude. Il se précipita vers moi, et je crus un instant qu'il voulait à nouveau me tuer. mais je me trompais. Les deux mains tendues, il renouvela sa demande, et cette fois sur un ton de prière fort et mouvant. Bien qu'il parût comprendre que l'excès même de ses manières le desservait, il continua à se faire de plus en plus pressant et démonstratif. Je rencontrai le regard de Van Helsing et j'y vis refléter ma propre conviction. Aussi me raidis-je quelque peu à l'égard de Renfield et, le repoussant, je lui fis comprendre qu'il perdait son temps. Ce n'était pas la première fois que je voyais chez lui cette excitation croissante lorsqu'il voulait obtenir une faveur qui, à l'instant même où il y pensait, prenait pour lui la plus grande importance. Par exemple, le jour où il m'avait supplié de lui donner un chat. Et comme alors, je m'attendais à le voir finalement, encore que plein de dépit, se résigner à mon refus. Mais tel ne fut pas le cas. Lorsqu'il s'aperçut qu'il me suppliait en vain, il fut pris de frénésie. Il se jeta à genoux, leva les mains vers moi, les tordant en des gestes de supplication, m'exhorta à nouveau en un discours sans fin, cependant que les larmes inondaient son visage et que tout en lui manifestait la plus profonde angoisse. « Je vous en prie, docteur Seward, je vous en supplie, laissez-moi quitter cette maison tout de suite. Peu importe la manière dont vous me laisserez partir, peu importe aussi où vous m'enverrez. Faites-moi accompagner par des gardes munis de fouets et de chaînes, qu'ils me mettent une camisole de force, des menottes et aux pieds des fers et qu'ils me conduisent en prison. Mais pour l'amour de Dieu, laissez-moi sortir d'ici. En m'obligeant à rester ici, vous ignorez le mal que vous faites et à qui vous le faites. Je vous parle du plus profond de mon cœur, de mon âme même. Ayez pitié de moi. Par tout ce qui vous est sacré, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, par votre amour que vous avez perdu, mais par votre espoir qui demeure, par le Dieu Tout-Puissant, faites-moi sortir d'ici et sauvez mon âme du péché. Ne m'entendez-vous pas, docteur? Ne me comprenez-vous pas? Ne voulez-vous pas vous rendre à l'évidence? Ne voyez-vous pas que je suis parfaitement sain d'esprit et que je vous parle très sérieusement? Que je ne suis pas un fou en pleine crise, mais un homme jouissant de toute sa raison et qui veut sauver son âme? Comprenez-moi donc, laissez-moi partir, laissez-moi partir. » Je pensais que plus cette scène durerait, plus il s'exciterait et qu'alors la vraie crise se produirait. « Allons, allons, » dis-je, sévère, « cela suffit. Mettez-vous au lit et essayez de vous calmer. » Interdit, il me regarda quelques instants. Puis, sans un mot, il se releva et il alla s'asseoir sur le bord de son lit. Comme je m'y attendais, de même qu'en de semblables circonstances précédentes, la prostration suivait l'exaltation. Comme après avoir fait passer mes compagnons devant moi, j'allais à mon tour sortir de la chambre, il me dit encore d'une manière calme, polie, « J'espère, docteur Seward, que vous vous rappellerez plus tard que j'ai fait tout ce que j'ai pu, ce soir, pour vous convaincre. » Chapitre 19. Journal de Jonathan Harker. 1er octobre, 5h du matin. C'est l'esprit tranquille que je sortis avec les autres pour aller à Carfax, car je n'avais jamais vu Mina si forte, si sûre de soi. Qu'elle fût mêlée à toute cette affaire avait été pour moi un véritable cauchemar. Mais maintenant qu'elle consent à nous laisser agir seule, je suis quelque peu rassurée. D'ailleurs, je l'espère, elle-même a maintenant le sentiment d'avoir fait ce qu'elle avait à faire. Si tous les moindres détails qui peuvent nous être utiles sont rassemblés, n'est-ce pas grâce à sa volonté, à son intelligence de la situation? Nous étions tous, je crois, assez impressionnés par notre visite à M. Renfield. En sortant de sa chambre, aucun de nous ne prononça un seul mot avant d'avoir regagné le bureau de Seward. Mais alors M. Morris s'adressa au docteur. « Ma foi, John, à moins que cet homme n'ait bluffé, c'est bien le fou le plus raisonnable que j'ai jamais vu. Je n'en jurerai pas, mais il me semble pourtant qu'il a en tête quelques desseins des plus sérieux, et dans ce cas, il a du mérite de n'avoir pas tenté de se sauver. » Lord Godalming et moi ne fîmes aucune remarque, mais le docteur Van Helsing dit à son tour. « Mon cher John, vous connaissez mieux que moi les phases étranges par lesquelles passent ces malades, et j'en suis vraiment heureux. » Car, je le crains, si ça avait été à moi à prendre une décision, j'aurais libéré Renfield avant qu'il se soit montré dans cet état d'excitation extrême. Mais nous apprenons chaque jour, et d'autre part, en ce qui nous concerne à présent, nous ne pouvons prendre aucun risque, comme dirait mon ami Quincy, tant notre entreprise est déjà scabreuse. Les choses sont bien telles qu'elles sont. Le docteur Seward parut leur répondre à tous deux en même temps. « Sans doute avez-vous raison. » Si cet homme avait ressemblé à beaucoup d'autres de mes malades, je lui aurais montré, quitte à courir un grand risque, que j'avais confiance en lui. Mais son comportement semble dépendre à ce point des allées et venues du comte que, en lui passant ses caprices, j'aurais peur de commettre une lourde erreur. Et puis, un jour, devant moi, il a appelé le comte son seigneur et maître. Et je me dis que, peut-être, il veut aller l'aider dans un de ses desseins diaboliques. Ce monstre se fait obéir des loups et des rats, sans parler des créatures devenues semblables à lui. Comment ne rechercherait-il pas à asservir un pauvre fou digne de respect? Oui, Renfield semblait parler très sérieusement. Je le reconnais, malgré ce que je sais de son cas. J'espère vraiment que nous avons fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais tout ceci, venant au moment où nous entreprenons nos lugubres recherches, est propre à décourager un homme. Le professeur s'approcha de lui et, lui mettant la main sur l'épaule, le rassura. « Mon cher ami, n'ayez aucune crainte. Nous nous efforçons, il est vrai, de faire notre devoir dans une affaire réellement effroyable, et nous ne pouvons agir que dans le sens qui nous paraît le meilleur. Mais il nous faut espérer en la miséricorde de Dieu. » Lord Godalming, qui était sorti de la pièce quelques instants auparavant, rentra en tenant à la main un petit sifflet d'argent. « Il se peut, » nous expliqua-t-il, que la maison soit remplie de rats. Voici pour les chasser. Nous nous dirigeâmes donc vers la maison abandonnée, prenant soin de nous cacher sous les arbres de l'allée chaque fois que le clair de lune apparaissait entre deux nuages. Lorsque nous fûmes arrivés près de la porte, le professeur ouvrit son sac et en sortit toutes sortes d'objets qu'il posa sur le seuil en quatre petits tas séparés, chacun d'eux étant évidemment destiné à chacun de nous. « Mes amis, dit-il, nous affrontons un grand danger et nous avons besoin d'armes de plusieurs genres. La menace que fait peser sur nous notre ennemi n'est pas seulement d'ordre spirituel. Souvenez-vous qu'il possède à lui seul une force comparable à celle de 20 hommes réunis. Et si un homme extraordinairement fort pouvait arriver à le tenir à sa merci, et à plus forte raison si plusieurs de ses adversaires, grâce à leur nombre, l'emportaient sur lui, jamais, en revanche, personne ne pourrait le blesser, alors qu'il peut, par ses blessures, nous faire le plus grand mal. Veillons donc à ce qu'il ne s'approche pas de nous. Placez ceci sur votre cœur. » Et il me tendit une petite croix d'argent, car je me trouvais à côté de lui. « Passez-vous ces fleurs autour du cou. » Et il me donna une guirlande de fleurs d'ail séchées. « Prenez aussi ce revolver et ce couteau. On ne sait jamais à quel autre ennemi on peut avoir affaire. » Et, à tout hasard, cette petite lampe électrique que vous attacherez au revers de votre veston. Et surtout, par-dessus tout, ceci, que nous ne devrons pas profaner inutilement. Il tenait un morceau de l'hostie sainte, qu'il glissa dans une enveloppe avant de me la donner. Chacun des autres reçut exactement les mêmes armes. « Et maintenant, John, mon ami, reprit le professeur, où sont les crochets ? Si nous parvenons à ouvrir la porte, nous n'aurons pas à entrer par la fenêtre comme des voleurs, ainsi que nous l'avons fait l'autre jour chez Mademoiselle Lucie. » Le docteur Seward essaya un ou deux crochets de serrurier, fort aidé en cela par son habileté de médecin. Bientôt, il trouva celui qui convenait, et le verrou rouillé finit par céder. Nous poussâmes la porte qui grinça d'un peu partout, mais qui s'ouvrit lentement. Chose assez curieuse, cela me fit aussitôt penser au récit du docteur Seward concernant son entrée et celle de ses compagnons dans le caveau des Mademoiselles Westenra. Ces derniers eurent sans doute la même idée, car tous ils reculèrent. Le professeur, le premier, se décida à faire un pas en avant et à entrer dans la maison. « In manus tuas, domine !» s'écria-t-il en se signant comme il franchissait le seuil. Nous prîmes la précaution de refermer la porte derrière nous. Nous craignions, en effet, que nos lampes, une fois allumées, l'un ou l'autre passant n'eût son attention attirée par cette insolite clarté. Le professeur examina la serrure afin de s'assurer de la possibilité d'ouvrir la porte de l'intérieur au cas où nous devrions fuir en toute hâte. Enfin, chacun alluma sa lampe et nos recherches commencèrent.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.